Moi, je suis André du Bismarck, au Café Oriental. J'ai repris totalement ce qui se
passe. Moi, j'ai essayé de me combattre au Café Oriental. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la niche de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi et bienvenue dans Parole aux auditeurs qui vous propose ce premier numéro du débat citoyen de la semaine. Dans sa communication du 25 mai dernier devant les partenaires réunis autour du projet d'appui au cycle électoral PASEC, le président de la CENI a annoncé quelques avancées dans le processus électoral en République démocratique du Congo. Il a indiqué que le processus d'acquisition des kits d'enrôlement se poursuit et le démarrage des opérations est prévu au mois de juillet. Entre-temps, le projet de loi sur l'identification et enrôlement des électeurs est en phase d'adoption au niveau de l'Assemblée nationale. Cette loi fait partie du chemin critique pour la suite du processus électoral. Tornay Nanga a aussi salué les garanties des Nations Unies sur la logistique et autres financements du processus. Certains observateurs estiment qu'au regard de ces volontés exprimées, il est temps que la CENI publie le calendrier des échéances. Qu'en pensez-vous? À l'adresse à @radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 081 890 6315 pour votre intervention en direct. Julie Fézabongonda est au standard, Dieudonné Nyanga à la mise en onde, Pierrot et Namézi à la réalisation de ce programme, coordonné et présenté par J.R. Lungembo sous la supervision de Martin Sebujani. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 6315 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Sans entrevue, nous aurons dans ce studio Corneille Nanga Yobelo, président de la CENI, pour apporter quelques éclairages sur les zones d'ombre que nous avons par rapport à ce processus. Arsène, vous êtes à Kipuit et Félicien à Kinshasa, vous avez le plaisir d'ouvrir ces débats. Arsène, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour Monsieur J.R. et bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
Quel est votre avis?
Je crois qu'il est nécessaire, très nécessaire même que le calendrier électoral soit publié. Je vais vous donner un exemple. Moi, je suis candidat. J'ai déposé ma candidature, j'ai payé la caution qu'il fallait. Mais, jusque-là, je n'ai aucune notification du calendrier électoral. Qu'est-ce que je peux penser? Je peux prendre ça pour une escroquerie intellectuelle ou une escroquerie tactique ou comment? Donc, à ma position de candidat député provincial, je crois que je suis tenu à l'information. La CENI doit m'informer administrativement pourquoi elle n'a pas organisé les élections. Ça, c'est de un. De deux, avec tout ce qui se passe au pays, je crois que la seule solution et la grande des solutions, c'est que la CENI publie le calendrier pour que nous autres, nous puissions nous préparer. Nous qui avons déjà posé nos candidatures, et en plus, peut-être, avec le calendrier, il y aura encore d'autres candidatures qui vont déposer, et on ne peut pas marcher comme ça dans toute une nation. Moi, quand j'ai déposé ma candidature, je me suis mis à la place d'un responsable, d'un monsieur qui veut aller prendre l'avis de la population. Je dois être tenu au sérieux que demain, si la population me donnait confiance, que je puisse faire ce travail correctement. Mais voilà, dès le début, la personne qui est censée organiser les élections est en train de mettre les histoires en ordre. Donc, un calendrier, même ce qu'il est en train de promettre au mois de juillet, il va commencer son travail. Mais, sur base de quoi il n'y a pas de calendrier, on va faire ça en décembre. Et qu'est-ce que nous pouvons dire à la population? De quoi nous devons faire la communication avec la population? En attendant que le calendrier puisse sortir. Mais quelles sont les bases que nous allons utiliser pour faire comprendre à la population qu'il y a un changement, ça va se passer, il y a les élections, quelle est l'importance des élections, toutes ces histoires, la constitution, tout ça nous devons affronter la population. Mais tant que la CENI elle-même qui est censée organiser ces élections ne sait pas prendre les choses au sérieux, est en train de chercher par-ci, par-là, et voir, ça ce n'est pas mon problème, c'est le problème du gouvernement, ça ce n'est pas mon problème, c'est le problème du Parlement, mais dans tout ça, c'est de l'imbroglio. Mais je peux dire ceci, pas supposé qu'aujourd'hui, nous qui avons déposé nos candidatures et que nous puissions faire une pétition sur l'ensemble de la nation et que nous puissions demander à la CNCD de démissionner. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura encore un second désordre. Donc pour ça, je préfère bien que M. Nang, qui sera invité aujourd'hui, s'il est là, de répondre à mes préoccupations. Sinon,
merci.
J'ai le droit d'aller me plaindre.
Merci beaucoup, Arsène. Pour vous, il est plus qu'impérieux de pouvoir sortir le calendrier électoral. Et vous pensez que c'est sur cette base-là qu'on peut même annoncer avec confiance cette opération d'enrôlement de mois de juillet. Voilà, donc vous estimez aussi que voilà, c'est ce qui était des candidats pour les provinciales qui jusque-là ne sont pas organisés ont aussi le droit de porter plainte, d'autant plus que la CENI, qui a reçu des cautions des uns et des autres, n'a pas pu organiser ces élections, et ça constitue, en tout cas selon vos propos, une infraction. Merci beaucoup, Arsène, d'avoir appelé l'équipe Twitter. Félicien, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, Félicien.
Bonjour, Gérard. Bonjour à tous les invités, à tous les invités de Radio Okapi et à l'invité aussi.
Quel est votre avis? Vous venez de suivre Arsène, qui pense que c'est quand même important. Il y a une nécessité de pouvoir publier d'abord le calendrier avant d'annoncer ou de faire face, pour bien faire face donc à tous ces défis qui restent.
Oui, mais je pense que tout ça, aujourd'hui, ça n'a aucun sens parce que le pays est déjà dans une impasse et ceux qui ont mis le pays dans cette impasse, c'est nous-mêmes, le peuple congolais, y compris la classe politique et le peuple en général. Parce que le pays a un problème d'homme et si cette génération était à l'époque des indépendances, je me pose la question si vraiment on allait avoir l'indépendance parce que nous sommes plus tournés vers la corruption, les intérêts personnels et nous sommes prêts à vendre notre pays. Donc le calendrier aujourd'hui, ça va résoudre aucun problème. Moi je pense que qui c'est qui s'oppose au dialogue, ils doivent mettre un peu de vin et un peu d'eau dans leur vin, parce que la situation dans laquelle nous nous trouvons est vraiment compliquée. On ne sait même pas par où on doit commencer. Et la CENI a beaucoup contribué dans tout ce que nous vivons aujourd'hui. Et cette CENI-là, moi, je pense qu'elle ne peut plus jouer un rôle. Nous ne pouvons rien attendre de cette CENI-là. Et il faudra que les gens puissent aller au dialogue et qu'ils puissent aller voir un peu quel système nous devions trouver pour aller aux élections et quel genre d'élections nous devions organiser. Mais en dehors de ça, demander à la CENI est déjà dépassée, elle est déjà démissionnaire, elle vous a montré que elle ne peut pas organiser les élections.
Oui, Félicien.
Et il y a manqué cela.
Oui, Félicien, nous l'avons dit dans plusieurs de nos émissions ici, il existe bel et bien un cadre de concertation tripartite au niveau de la CENI qui pouvait résoudre toutes les difficultés techniques. Alors, quand vous évoquez à nouveau les dialogues, et entre-temps, il y a ce que nous appelons les avancées très significatives telles qu'annoncées par le président de la CENI, qui estime que déjà au mois de juillet prochain, on peut commencer avec l'enrôlement. Donc, revenir encore et attendre le consensus qui aboutira par les dialogues, qui sortira du dialogue, n'est pas là freiner le processus électoral.
Oui, mais l'enrôlement que le président de la CENI propose pour le mois de juillet ne nous amènera jamais aux élections dans les délais. Et il a déjà dit il lui faut au moins 18 mois pour organiser les élections. Et il va passer au-delà de la date par quel moyen si la classe politique ne se met pas autour d'une table et trouver un compromis politique, comment lui va sauter les étapes et aller au-delà de la date prévue. Donc moi je pense que la CENI là, 2006-2011, elle a joué un mauvais rôle. Et M. Nanga était expert là-bas. Il n'a jamais dénoncé, il n'a jamais démissionné. Les conditions dans lesquelles lui-même est entré, et ce sont les mêmes conditions, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Aujourd'hui, nous n'avons plus à penser qu'il y a des institutions, il y a ceci, cela. Nous devons être honnêtes.
Oui,
nous devons notre pays pour que nous puissions sauver le pays. Et ne pas mettre les choses à zéro.
Oui, quand vous parlez de mauvais rôle qu'a joué la CENI en 2010 et en 2011, vous voulez dire quoi exactement?
Mais la tricherie, la fraude qui s'est passée là-bas, ces gens-là, ils sont partis. Le président, c'est toujours quelqu'un de la société civile. Et de la société civile, et tout ce qui est de l'opposition sont là, et les gens sont là. Mais malheureusement, les choses se passent mal aux vies aussi de tous ces gens-là. Personne ne dénonce, personne ne démissionne. C'est ça le problème que nous avons dans ce pays. Donc moi, je pense que nous devions nous asseoir, trouver une formule. Sun City a échoué et maintenant peut-être on pouvait récupérer les choses autrement.
Merci beaucoup, Félicien, d'avoir appelé. Pour vous, le pays est déjà dans une impasse. Le responsable, c'est le peuple, également les politiques. Le calendrier ne va rien résoudre, selon vous, car la CENI ne peut rien donner parce que déjà l'expérience de 2006 et 2011, pour vous, cette institution avait joué un mauvais rôle. Amos, vous êtes à Bukavu. Bonjour et bienvenue. Dans parole aux auditeurs.
Bonjour JR, bonjour à tout le monde qui nous suit, bonjour à l'invité. En fait, c'était d'abord à féliciter les analyses de mes deux prédécesseurs par rapport à la situation que traverse actuellement mon pays, la RDC. Nous sommes un peu déstabilisés et on ne comprend plus rien par rapport à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, de la manière dont la CENI est en train de travailler. Et je pense que la façon dont la CENI travaille actuellement, met en cause son indépendance et pourtant c'est une institution d'appui à la démocratie. Je voudrais juste poser la question au président de la studio. Est-ce que la RLMA fait partie du processus électoral? Si oui, pourquoi maintenant on peut nous dire que l'enrôlement de nouveaux majeurs va commencer au mois de juillet sans que cela ne figure dans un calendrier pouvant rassurer le peuple congolais? Parce que le fait qu'on nous annonce que l'enrôlement commence au mois de juillet, on ne sait pas si cet enrôlement va prendre combien de mois et le reste du processus prendra combien de temps pour que les Congolais aient les élections que tout le monde attend à bras ouverts. Voilà ce qui est en train de montrer qu'avec la Cour, qui a l'arrêt qui a été rendu par la Cour constitutionnelle, et qui semble mettre tout le peuple congolais dans l'embarras. Je pense que la CENI est en train de démontrer que non, elle est devenue partiale, au lieu d'être impartiale avec cette manière de faire les choses. Et déjà, ça démontre réellement que la CENI est au service du régime en place. Ce qui donne raison à ceux qui disent souvent que la CENI est la copine de la majorité présidentielle. Tenez, monsieur Gilles, nous sommes en train de suivre les propos des membres de la CENI. Il y a le vice-président de la CENI qui était de passage et qui est toujours à Bukavu. Depuis la semaine passée, les propos qu'il a tenus à Bukavu montrent en suffisance que la CENI est en train de préparer le peuple congolais au glissement. Ce qui ne passera pas pour le peuple congolais. Parce que si vous entendez ce qu'il nous dit, le premier intervenant a évoqué les élections des députés provinciaux. Nous avons vu la CENI donner un calendrier. On a même pris les candidatures, les députés, les candidats des députés provinciaux ont déposé leur candidature avec caution. Mais est-ce que la CENI peut nous dire comment ce processus était bloqué? Qu'est-ce qui a bloqué d'emblée ce processus sans que les élections aient lieu? C'est ce qui est en train de nous déséquilibrer.
Oui.
On se demande finalement
oui,
Amos, qui va donner
oui,
les élections à qui.
Oui, Amos, là je crois que nous devions comprendre un peu le processus de la décentralisation. C'est vrai qu'à un certain moment, on se retrouvait dans un blocage. La CENI, qui a annoncé déjà l'organisation des provinciales, et des candidats députés ont même eu à postuler avec caution. Mais de l'autre côté, il y a eu ce que nous avons appelé l'arrêt de la Cour, qui avait autorisé des mesures exceptionnelles, ce qui nous avait amené à la mise en place des commissaires spéciaux au niveau des nouvelles provinces. Mais au-delà de tout ça, il y a la répartition des sièges par rapport à cette nouvelle configuration sur les 26 provinces qui n'étaient pas encore adoptées et votées au niveau des parlements. Ce qui a fait que voilà, toutes ces difficultés n'ont pas permis à la CENI de pouvoir aller quand même au-delà parce qu'il y a tous ces défis qui devaient être relevés. Voilà, donc je crois que sous réserve de votre contrôle,
Amos,
oui. Allez-y.
Mais c'est bien, vous devez savoir, une seule chose, et tout le monde qui nous tient à ce moment, c'est que le pouvoir en place, c'est-à-dire le gouvernement, avait non seulement le devoir et l'obligation de commencer à préparer les élections de 2016, depuis 2011. Et si vous essayez de demander aux gens du gouvernement, où est-ce que le gouvernement a mis l'argent prévu pour les élections depuis 2011? Il n'y a pas de réponse. Et souvent, on n'entend pas les gens de la CENI nous dire que non, ils sont bloqués par le gouvernement. Mais souvent, vous comprenez qu'il y a une certaine complicité entre la CENI et le gouvernement pour ne pas organiser les élections. Et c'est là que vous allez voir, lorsque le peuple congolais veut poser des questions tellement intéressantes par rapport au procès électoral, ce sont les gens du pouvoir en place qui défendent la CENI. Et non la CENI qui vient donner des explications valables au peuple congolais. Et c'est ce qui continue à fâcher le peuple. Nous pensons que, par rapport à ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, le peuple doit se réveiller, le peuple doit rester vigilant et dire à la CENI si elle trouve qu'elle est incapable d'organiser les élections dans les délais constitutionnels, elle n'a qu'à démissionner et laisser le peuple congolais se choisir des dirigeants pour pouvoir diriger le pays dans une manière assez responsable. Au lieu que nous continuons à vivre déjà depuis ping-pong de la part de la CENI et du pouvoir, et c'est ça qui continue à passer le peuple congolais.
Merci beaucoup, Amos, d'avoir appelé de Bukavu. On revient ici à Kinshasa avec vous, professeur Zika. Vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous avez suivi vos prédécesseurs, professeur Zika, quel est votre avis?
Oui, je pense d'abord que les élections dans les délais constitutionnels sont possibles. Et les problèmes de la CENI, c'est de la méthodologie. La méthode qu'elle a prise l'amène tout droit au mur et risque d'engendrer trop de problèmes inutiles. Pour le moment, les questions posées, enregistrement de nouveaux majeurs et revoir des fichiers, sont des bons problèmes dans le sens où nous avons maintenant 21 nouvelles provinces qui doivent fonctionner et le premier travail du ministère de l'Intérieur, c'est de demander que ces hommes qui vont gouverner nous donnent quand même, établissent l'état civil. Parce que le problème du Congo est d'abord posé au niveau de la citoyenneté. Voilà que la CENI va rentrer encore pour qu'on puisse dire qu'il est congolais par en levant la main, alors que c'est l'état civil qui peut le faire. Alors, quand les nouvelles provinces vont établir l'état civil, la CENI peut maintenant facilement puiser les informations là-bas et ce travail peut se faire dans deux mois tout au plus. Alors maintenant qui fait ça, chaque ville au Congo a un quartier, il y a un chef de quartier qui est connu, il y a un chef de rue qui est connu, il y a une commune qui est connue, et là encore, il y a déficit de l'état civil. Alors, la CENI répond aux questions qui sont posées, parce que la première question posée, comment identifier les Congolais? Les Congolais n'ont pas de carte d'identité, donc il faut commencer par faire l'état civil. Deuxièmement, la CENI doit être au milieu du village, pas avoir comme défenseur ou griot les gens de la majorité. Là, ça ne marchera pas, ça va créer beaucoup d'ennuis inutilement. Aujourd'hui, les élections dans les délais constitutionnels sont possibles. Aller autre que ça, ce sera une tyrannie politique et la tyrannie risque de créer des problèmes inutiles parce que avoir une décision des cours suprêmes,
professeur Zika, quand vous soutenez que les élections sont vraiment possibles dans les délais constitutionnels, vous appuyez votre argumentaire sur quoi? Parce qu'il y a des défis énormes à relever, notamment l'enrôlement de nouveaux majeurs et aussi la révision du fichier électoral qui, ces opérations ne peuvent pas se limiter à moins de 4 mois.
Vous savez, Pierrot, c'est pas vrai, hein. Je pense que j'ai écrit à M. Langa, pas trois fois, et j'ai écrit à M. Fer aussi. Je pense que c'est possible. Prenons Kinshasa pour seulement faire l'exemple. À Kinshasa, nous voulons réviser tous les fichiers, et qu'on les fasse simultanément, pas région par région, mais simultanément, dans toute la République, parce que pour un décentre, c'est la raison pour laquelle, alors, là, pour avoir à Kinshasa, nous pouvons arriver au niveau de la commune à l'état civil. Je réponds que le problème du Congo, c'est celui de la citoyenneté et de savoir qui est congolais. Donc, ça se fait au niveau de l'état civil. Là-bas, à l'état civil, il faut avoir quatre fiches. une fiche qui peut être pour la CENI, une fiche pour l'administration, une fiche pour l'enseignement, autre chose. Donc, ici, c'est question de la méthodologie. Nous sommes prêts à montrer à M. Nanga, point par point, comment le faire. Je lui ai écrit, il a ma lettre, et j'ai encore écrit à tout le monde, toute la vie prenante. Je suis d'avis avec les experts de l'ONU que dans les délais, on peut le faire. Mais si nous voulons créer une cacophonie, peut-être une polyphonie, nous risquons de dire, voilà, il n'y a pas moyen parce que on va compter maison par maison. Ce n'est pas ça qu'on veut. D'ailleurs, nous cherchons pour nous, pour la CENI,
professeur, juste un éclairage, hein, une question de curiosité. Aujourd'hui, quand on parle de révision du fichier électoral, est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle liste? Est-ce que après deux fois l'organisation des élections en République démocratique du Congo, on peut dire aujourd'hui que nous avons un fichier? Nous avons une liste des électeurs.
Nous n'avons pas un fichier électoral. Pourquoi? La chance qui est là, que à tout malheur, quelque chose est bon. Et Dieu a confondu ceux qui ont voulu créer un désordre. Pour le moment, on doit refaire un nouveau fichier sur base de l'état civil. Et sinon, j'insiste, ça se fait dans 45 jours. Nous sommes prêts à l'éprouver, nous sommes prêts à le démontrer, nous sommes prêts à l'aider s'il veut même. Là, il faut que chaque chef de rue, chaque chef de quartier, chaque chef de village, chaque groupement soit lui, et que nos enfants doivent être inclus, et les autres sont pendant les vacances. Il faut que nos enfants aussi participent à ces recensements. Ça prendra un petit travail de synergie de tout le monde ici. Mais ici, c'est quoi le problème? On essaye de nous dire des choses qui ne font pas de sens. On ne doit pas compter maison par maison. On va inviter les Congolais d'aller s'identifier dans leur rue où ils sont connus par les chefs de la rue, dans leur qui va mener au quartier, et on va au niveau de la commune. Dans les villages, dans chaque village, il y a un chef du village qui est connu, il y a un chef de groupement qui prend tout le monde, et là, on va au secteur, et du secteur, on va au territoire. C'est tellement facile, sauf si on veut seulement élastiquer les choses pour autre raison que la
région. Merci. Merci beaucoup.
Ne pas avoir d'élection dans les délais constitutionnels sera une tyrannie politique.
Voilà, merci. Merci beaucoup, professeur Ntitia, d'avoir appelé de Kinshasa. On va prendre Pacifique et Talubashi. Pacifique, bonjour.
Voilà, on a la radio de la paix. Moi, je dis ceci, hein, nous devons vraiment être sérieux dans tout ce que nous sommes en train de faire. Et c'est votre mission demain, et doit être également pédagogique. Nous voulons comprendre un peu les jeux de la CENI. Si la CENI se rend compte qu'elle n'est pas capable d'organiser les élections dans les délais, moi, je crois que autant démissionner, c'est ça même la probité donc intellectuelle. Vous dites, non, ça ne pourra pas le faire, vous démissionnez tout simplement. Alors, pour l'enregistrement, tout simplement, des nouveaux majeurs, tout ça, c'est vrai, c'est un vrai problème. C'est de leur droit, c'est conditionnel. Mais dès lors que nous avons des contraintes non levables en ce moment-là, je crois qu'on peut expliquer aux majeurs que voilà, il y a tel problème, comprenez tout cela, et on passe à autre chose. Pour l'enrôlement, je crois que c'est un problème qui ne peut pas nous amener à aller un peu plus loin. Je vous donne un cas. Voici le cas, lorsqu'on a bouché les numéros des gens avec des compagnies de télé, des téléphonies mobiles, ils ont pris combien de temps pour enregistrer tous ces gens-là? Mais la CENI peut aussi s'inspirer de ce modèle-là pour que nous allions vite. Ça ne peut pas prendre 45 jours. Nous pouvons facilement aller. La CENI doit éviter de jouer les jeux de la majorité. Donc la majorité tient à tout ce qui n'est pas des élections selon les délais constitutionnels. Et la CENI, bon, s'engage dans tout cela. Ce qui va encore créer des problèmes. On nous a relevé encore un autre problème pour dire que nous avons la question des doublons. C'est vrai. Aujourd'hui, on peut enlever tout ça pour nettoyer. Mais pendant qu'on est en train de nettoyer, il y a des gens qui meurent. Les doublons resteront toujours. Est-ce que ça, c'est le vrai problème? C'est un faux problème encore. Nous pensons que la CENI, pour sauver la situation de la République démocratique du Congo, qui est aussi une situation différente des autres situations dans l'Afrique centrale, doit jouer un vrai rôle. C'est-à-dire que si Nanga, qui va passer après nous, de comprendre que la mission, la charge est lourde pour lui, de démissionner carrément et de laisser à des personnes qui sont capables. Nous avons des personnes capables, ici chez nous en République démocratique du Congo, de pouvoir organiser ces élections dans les délais. Et aussi, si il a fait dire qu'il avait un problème de financement, c'est vrai, un problème de financement. Mais la personne qu'on devait arrêter, la première personne qu'on devait arrêter, mais non, nos députés, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire. C'est Madame Poyo qu'on devait arrêter. Il a dit qu'annuellement, il devait garder 300 millions. Et pour que dans 5 ans, il ait 1 milliard 500 millions. Mais ça y est où? Mais tout ça, bon, les gens laissent parce que, bon,
voilà. Écoutez, bon, Merci, Monsieur Pacifique, d'avoir appelé de Lubumbashi. Nous allons avoir dans quelques instants le président de la CENI, tout en vous rappelant le 081-890-6315 pour votre intervention en direct. Et vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook.
Votre connexion Internet est trop lente? Radio-Okapi.net vous propose un service gratuit. Les alertes mail. Toute l'actualité de la RDC, le sport, la politique, l'économie, la culture et les offres d'emploi. Faites votre choix pour recevoir chaque soir les infos dans votre boîte mail. Les alertes mail, c'est gratuit. Radio-Okapi.net à votre service.
Voilà, il faut qu'on remercie de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs, ce cadre d'échange citoyen. Charles Kananga, vous avez écrit, donc Charles Kananga, vous avez écrit en disant que, pardon, vous êtes sur qui vous, voilà. Il y a encore du temps pour organiser les élections dans les délais constitutionnels. Odette Rougué-Dabaga, vous êtes au Maniema. Vous estimez que d'ici peu, les élections peuvent être organisées, mais sans enrôlement, combien de Congolais qui vont voter et comment tireront les cadres ceux qui ne voteront pas. Fabien Kasunga, vous êtes inquiété et vous avez posé beaucoup de questions dans votre message. Qu'est-ce que la CENI ferait s'il n'y aura jamais le dialogue? Quel attend pour donner un calendrier? Et s'il y a dialogue non inclusif, ceux qui ne participeront pas accepteront-ils un calendrier qui sortira de la proposition de Corneille Nangan? Voilà un peu cette question. Jean-Claude, vous nous avez rejoint également. Vous êtes à Kinshasa. Bonjour Jean-Claude.
Je suis Jiffé Katindi de Kinshasa. Vraiment, avec regret, nous sommes un pays exceptionnel. Dirigé par des gouvernants exceptionnels, la CENI est une institution d'appel à la démocratie. Je regrette qu'elle soit dirigée par un président exceptionnel aussi. Comment? Je pense que l'invité sera là tout à l'heure. J'ai quelques questions à lui poser. Quelle est d'abord son observation sur les candidatures des députés provinciaux déposés l'an passé? Est-ce que pour lui, la CENI est-elle indépendante ou non, selon lui?
Voilà. Alors, vous n'avez que cette unique question?
Non, je continue à dire.
Oui, allez-y.
Pourquoi la majorité soutient-elle toutes les actions de la CENI? Il n'y a pas de contradiction juste là. Tout ce que la CENI est en train de faire est bon pour la majorité. Et comment peut-il programmer l'enrôlement au mois de juillet, sans qu'il y ait calendrier électoral, M. Gilles? Qu'il nous dise un peu qu'est-ce qu'il y a, pourquoi il nous fait cette démocratie chez le président.
Merci beaucoup, Jean-Claude, d'avoir appelé de Kinshasa. Simon Tsilounou, vous êtes à Matadi. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, merci beaucoup. C'est Simon Tsilounou, Mayamona, depuis le Congo central à Matadi. En fait, le problème, mon cher journaliste, est encore résolvable dans la quiétude, si nous pouvons le comprendre comme ça. Parce que la CENI, comme elle est indépendante, c'est elle qui doit jouer pour que la quiétude puisse s'installer des 3 ou 4 camps qui existent. D'abord, plusieurs personnes parlent de l'enrôlement, par exemple, des nouveaux majeurs. Mais ce cas n'est pas une improvisation, car la loi électorale, déjà résolvée chaque cycle électoral,
il y a l'enrôlement qui s'est fait. En 2011, ça n'a pas causé problème. Mais en 2016, tout le monde prend ça comme un astuce. Non, il y a maintenant des nouveaux majeurs. On dirait la loi n'avait jamais prévu quelque chose par rapport aux nouveaux majeurs. C'est un cycle électoral. Le cycle électoral comprend aussi l'enrôlement des nouveaux majeurs. Parce qu'on estimait qu'en 2006, il y aura des gens qui vont dépasser 18 ans en 2011. Donc, la loi électorale avait prévu ça. Je crois que ce problème des nouveaux majeurs ne peut pas être utilisé comme un argument pour appuyer ceci ou cela. Mais à la CENI, pour éviter les suspicions qui planent contre elle, la meilleure façon de faire en tant qu'une commission nationale indépendante, c'est de sortir un calendrier global et inclusif dans les délais. Peu importe ce que ça va coûter. Si ça coûte des milliards ou des trillions, si c'est de quoi, la CENI fait son travail par rapport au montant. Le reste, nous avons les moyens financiers, tout ça. Le reste, ils laissent ça à la politique. Les politiques congolais peuvent se retrouver par rapport aux problèmes en présence posé par la Commission nationale électorale indépendante. Et les politiques peuvent maintenant, à ce moment, se retrouver. Voilà pour organiser les élections dans les délais, il nous faut tel montant. Et avec tel montant, nous avons, ils peuvent se retrouver et trouver une solution par rapport à ça. Mais la CENI ne peut pas se permettre de proposer, non, faute de moyens, non. Ça, ce n'est pas elle. Elle n'a pas cette mission. La CENI n'est pas une régie financière. Elle fait son travail et pose les problèmes aux politiciens. Voilà, dans les temps qui restent, comme d'ailleurs Nanga l'avait dit autrefois, que semblerait-il, si on double les moyens, on triple, il peut toujours réduire les temps. Donc, il peut faire son calendrier. Parce que si la CENI le fait comme tel, je vous rassure, toutes ces solutions qui planent sur elles peuvent être dissipées et la CENI peut permettre de donner une occasion de plus aux Congolais de se retrouver par rapport aux problèmes qu'elle pose le calendrier publié par lui. Donc c'est très important. Moi je crois que c'est un peu barre. La CENI, son rôle, il joue son rôle, il met le calendrier. La CENI ne peut pas soupçonner ou sinon pousser les politiciens à accepter quelque chose qui puisse aller au-delà, en dehors de la Constitution. Elle doit faire son travail, qui laisse la discussion aux politiciens par rapport à ce qu'il va faire. Je crois que ça peut décrisper un peu les climats, tout ça, les suspicions, tout ça qu'on sort. Je crois que majorité, opposition, société civile, vous voyez comment la société est en train de s'agiter à cause d'elle. Je crois qu'il n'est pas tard pour mieux faire. Nous avons encore du temps avec nous. Avec une minute, on peut beaucoup faire. Avec une minute, la vie d'une personne peut changer. Je crois que c'est ce qu'il fallait faire.
Merci beaucoup, Simon, d'avoir appelé de Matadi, Maître Adria. Tout est encore possible. Vous êtes à Kananga. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, bonjour, cher Lumiembo. Bonjour à tous les amis auditeurs.
Quel est votre avis, Maître Adria?
Oui, merci beaucoup, JR, de l'opportunité. Je pense que tout se résume dans la volonté politique, hein, parce que lorsque nous suivons les arguments des uns et des autres, j'ai comme l'impression, donc je donne raison à ceux-là qui estiment que la CENI est en train de faire le jeu du pouvoir, parce que vous n'avez qu'à observer, lorsque la CENI émet un point de vue, et ce point de vue-là n'est pas appuyé par le pouvoir, c'est directement une réaction. Après, la CENI se bloque et la CENI est obligée maintenant de revoir maintenant sa copie. Au jour d'aujourd'hui, hier, j'ai suivi le professeur qui a fait de Kinshasa. Il a tout à fait raison parce que même moi ici, je partageais avec un ami, un ouest africain. Il m'a dit que, vous voyez, dans ce pays-ci, pour que les élections se tirent dans les délais avec deux possibilités. La première possibilité, de passer outre cet enrôlement-là des nouveaux majeurs. Pourquoi? Parce que l'année passée, il y avait déjà le candidat donc à la députation provinciale qui avait déjà
postulé qui avait déjà déposé. Donc, si on organisait les élections selon le calendrier qui était publié autrefois au mois de septembre, comment la CENI pouvait encore donc enrôler des nouveaux majeurs? Donc, si ils peuvent passer outre et c'est possible pour besoin d'intérêts supérieurs de la nation. Deuxièmement, le monsieur là m'a dit qu'il y a encore certaines possibilités d'organiser les élections dans le délai avec l'enrôlement des nouveaux majeurs. Comment faire d'équiper toutes les provinces et de passer l'enrôlement au même moment? Je ne sais pas si nous avons suivi la CENI et donc la MONUSCO qui a mis déjà par logistique à la CENI pour permettre maintenant à déployer les kits électoraux sur toutes les étendues de la province du pays. Et c'est comme ça que nous nous posons la question de savoir ce que c'est Mokuto dans ce pays par la CENI. Parce que la CENI, en quoi elle est indépendante lorsque elle conditionne la publication du calendrier par la tenue du dialogue aujourd'hui? Nous sommes tous témoins privilégiés. Nous entendons comment est-ce que la classe politique congolaise se gère autour de ce dialogue. Bon, admettons, prenons même l'hypothèse la plus extrême pour dire que la classe politique n'est pas à se mettre d'accord. Ce dialogue, quelle sera maintenant la position de la CENI? La CENI attendra toujours ce dialogue-là, même s'il se tenait en 2050 pour publier les calendriers. C'est comme ça que nous demandons la CENI de revenir à l'ordre, de jouer correctement son travail, son rôle, conforme à la Constitution. Et elle veut mettre ça en esprit si elle estime qu'il y a des choses qui bloquent son indépendance, il y a des choses qui bloquent son fonctionnement. Monsieur Nanga, vivre de jeter l'établi.
Merci beaucoup, Maître Adrien, d'avoir appelé les Kananga. Maître Trésor, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, je suis à Kinshasa, Maître Likonza.
Voilà, Maître Likonza, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour.
Quel est votre avis?
Bien, merci. Je ne vais pas me lancer dans des discussions autour de la sincérité du gouvernement par rapport au financement de la CENI. Je ne dois pas non plus peut-être attribuer une sorte de carapace à l'opposition. Mais je voudrais simplement dire que, au stade actuel, je vois deux priorités. D'abord, la révision du fichier électoral, l'une des recommandations de l'opposition. Il faut réviser le fichier pour permettre aux nouveaux majeurs d'avoir leur carte d'électeur. Mais du côté du gouvernement, on parle du dialogue. Mais aussi la CENI. Pour qu'elle puisse évoluer, je vois la question du consensus par rapport au calendrier électoral. La publication du calendrier électoral, pour le moment, ne constitue pas une priorité pour la CENI, d'autant plus que les acteurs politiques eux-mêmes sont en train de bloquer le processus. La CENI avait publié un calendrier que tout le monde avait demandé. Mais il y a eu des contestations. Personne n'a voulu faire confiance à la CENI. Alors aujourd'hui, quand on doit encore demander à la CENI de publier les calendriers, rien ne convainc, rien ne prouve que les acteurs politiques et de l'opposition et de la majorité vont accepter ces calendriers. C'est pourquoi, avant qu'un autre calendrier ne soit publié, les acteurs politiques doivent s'entendre. Ils doivent trouver un compromis à l'avance. Avant de pousser la CENI à mettre encore en place un calendrier électoral. Et par rapport aux élections, sans le calendrier, nous ne pouvons pas peut-être dire que les élections vont être organisées en telle date. Mais par rapport à ce qui divise aujourd'hui l'élection présidentielle, je veux que nous puissions également être sincères et justes à ce niveau-là. Puisque aujourd'hui, si on voit la situation telle qu'elle se présente, les députés provinciaux et les sénateurs.
Voilà, merci. Merci beaucoup, Maître Trésor Likonza, d'avoir appelé de Lubumbashi. 081-890-6315 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
Merci encore de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs. Nous entamons le dernier quart d'heure de cette émission et nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio M. Corneille Nanga Yobelo, président de la CENI. Monsieur le président, bonjour.
Bonjour.
Voilà, je crois que nous allons présenter d'abord des excuses auprès des auditeurs qui vous attendaient depuis le début de cette émission. Donc il ne reste que les 20 dernières minutes que nous serons obligés de bien gérer. Êtes-vous à l'aise pour répondre à toutes les préoccupations des auditeurs en ce moment?
Très à l'aise. Merci de cette invitation et je salue surtout tous les peuples congolais et plus spécialement les auditeurs des Radio Okapi qui nous suivent en ce moment.
Voilà, aujourd'hui, Radio Okapi a franchi la barre de 3 millions, en tout cas, des visiteurs. Ce qui veut dire qu'en ce moment, vous avez plus de 3 millions, que ce soit des internautes ou encore des auditeurs qui vous suivent, pour avoir des éclairages sur cette question. Alors, après avoir organisé par deux fois les élections, à RDC, peut-on affirmer qu'aujourd'hui, il existe un fichier électoral?
Oui, avant de répondre, je voudrais encore m'excuser auprès des compatriotes, des auditeurs. J'étais pris par dans une réunion technique. Comme vous le savez, nous sommes en train de valider la cartographie, la répartition des centres de prescription dans tous les pays au niveau du Parlement. Et ce qui a fait que je ne pouvais pas être là, dans toutes mes excuses. Avons-nous un fichier électoral? Aujourd'hui, je dirais, nous avons fait l'élection en 2006, c'était sur base d'un fichier électoral constitué. Et nous avons organisé les élections en 2011, c'était encore sur la base d'un fichier reconstitué. Reconstitué, ça veut dire, on avait pris le fichier de 2006, on l'a mis à part, à côté, et on a repris un nouveau fichier. Donc, fort malheureusement, en attendant les élections, pour les élections de 2016, nous sommes obligés de revenir sur cette option. Donc, nous sommes en train de faire la révision du fichier électoral. C'est-à-dire, on a mis de côté l'autre fichier et nous reprenons en distribuant de nouvelles cartes à tous les Congolais, comme on l'a fait en 2011, comme on l'a fait en 2006.
Alors, la CENI avait affirmé en direct de la radio-télévision nationale congolaise que le fichier électoral était déjà fiabilisé et même cette opération a coûté 20 millions de dollars à la République. Pourquoi ne pas aller aux élections avec ce fichier?
Bon, c'est une option que la CENI elle-même avait soulevée à l'époque. Ce qui est sûr, c'est que pour la CENI, le fichier fiabilisé était visé donc à la tenue des élections avec les fichiers de 2011 et qui a suivi depuis une fiabilisation. Mais le problème du fichier, c'est quoi? C'est la confiance qu'ont les acteurs sur les fichiers qui justifie de sa fiabilité. Il s'est avéré que l'audit du fichier a été mené par l'Organisation internationale francophonie. C'est plus ou moins à l'unanimité, les acteurs politiques, majorité comme opposition, les uns qualifient ces fichiers de corrompu, d'autres les qualifient d'infectés, d'autres les qualifient de ne pas être de non fiables, ce qui veut dire que ça pose un problème. Quand on n'a plus confiance à les fichiers, pour une fois, le seul point sur lequel les acteurs politiques sont unanimes, c'est que ces fichiers, on ne peut pas aller aux élections.
Mais la CENI elle-même dit quoi de ces fichiers? Est-il pollué, corrompu, effacé? Vous ne répondez que d'un propos.
Non, ça ne dépend pas de la CENI. Le problème est que la CENI, dès lors qu'il s'engage à une démarche qui nous amène aux élections avec un fichier sur lequel les acteurs ne croient pas, c'est déjà les ingrédients des problèmes. D'où la CENI a fait...
Quelle est la réalité?
La réalité, la CENI a fait une analyse. Et la CENI a fait une évaluation. N'oubliez pas, je suis arrivé en fonction en fin novembre. Ce que nous avons fait en fin novembre, c'était d'abord d'évaluer, objectivement sans complaisance, les calendriers de 2020. Le calendrier global de 2015. De cette évaluation, nous avons dégagé un argumentaire à 10 points. Et de cet argumentaire, c'était pour voir qu'est-ce qui devrait être fait sur le fichier. Et de cet argumentaire, parmi les éléments, je ne prends que deux. Parmi ces éléments, il s'est avéré que le fichier tel qu'il était, bien que fiabilisé, pose un nouveau problème qui est tel que nous devrions tout de même enrôler, serait-ce partiellement, les nouveaux voyageurs. Ils sont plus ou moins estimés aujourd'hui à 10 millions d'électeurs. On ne peut pas les mettre à côté. Mais c'est faisant, ça posait un autre problème que le découpage territorial est passé par là. Allions-nous garder les anciennes cartes et les nouvelles? Quand vous regardez les anciennes cartes, elles sont configurées sur le format des 11 provinces. Donc, si vous prenez votre carte électeur, vous trouverez que province d'origine, c'est écrit province orientale, c'est écrit Katanga. Or, ces provinces-là n'existent plus. C'est-à-dire que les nouvelles cartes devraient se baser sur la nouvelle nomenclature administrative avec 26 provinces. Ça posait donc un problème que si nous ne donnons des nouvelles cartes qu'aux seuls nouveaux majeurs, nous aurions deux formats de cartes en circulation qui poseraient énormément de problèmes. Le deuxième point de cet argumentaire, c'est que c'est la fiabilité de la carte elle-même. La carte que nous avons, vous savez que dans son rapport de 2013, la CENI avait fait état du vol de ces matériels qui ont traversé la frontière. Et c'est un fait avéré aujourd'hui que beaucoup de cartes sont distribuées en dehors du circuit normal de la CENI. J'en ai expérimenté moi-même, j'ai fait l'expérience moi-même à Goma, où, arrivé à Goma, j'ai donné $40 à un montard. Et les jeunes, 20 minutes après, me ramenaient des cartes. C'est-à-dire que ce sont des cartes qui sont imprimées en dehors du circuit de la CENI. Ces problèmes-là mènent donc à se poser des questions sur la fiabilité de la carte. De ces 10 points, je n'ai cité que 2. De ces 10 points, nous avons décidé donc de faire comme en 2011, procéder à la révision du fichier électoral, et c'est le travail que nous sommes en train de faire.
Une question, je ne sais pas si vous serez mal à l'aise pour y répondre, parce qu'aujourd'hui, bon nombre d'auditeurs n'attendent que la réponse que le président de la CENI donnera à cette question. Est-ce que vous êtes confiant pour l'organisation des élections présidentielles dans les délais constitutionnels?
Non seulement que je suis à l'aise, mais aussi je vous dis que je suis confiant à l'organisation de tous les scrutins. Tous les scrutins, et c'est ça l'enjeu principal de la révision du fichier électoral que nous faisons. Comparativement au fichier de 2006 comme celui de 2011, le fichier que nous allons monter en 2016 est un fichier qui sera à même de prendre en charge tous les scrutins. Et tous les scrutins, ça veut dire, et qui sont prévus par l'État.
Que dit les rapports de l'OIF pour le délai des opérations? Est-ce que ça peut prendre 16 mois?
Je n'ai pas encore vu les rapports de l'OIF. Et les rapports, je pense que la mission de l'OIF, l'OIF n'a pas déployé la mission pour examiner si 16 mois ou autre. Mais ce que je sais, que nous avons travaillé avec l'OIF, sur le plan technique, nous avons travaillé ensemble avec cette mission. Nous attendons ces rapports, mais qu'à cela ne tienne. Quel que soit ce qui viendra de faire, je pense que c'est lui, l'institution qui a en charge l'organisation des élections, c'est la CENI. Ne faut pas vous tromper, ce n'est pas les Nations Unies qui viendront organiser les élections, ce n'est pas non plus l'OIF qui viendra organiser les élections. Les élections seront organisées par la CENI, et la CENI travaille d'arrache-pied. En 5 mois, tenez, en 5 mois, nous avons fait l'évaluation depuis décembre. Et de cette évaluation, nous avons eu 2 axes. Premier axe, nous avons trouvé que le pays était dirigé par, les provinces étaient dirigées par des commissaires spéciaux. C'était quelque chose qui n'était pas conforme à la Constitution. C'était une mesure exceptionnelle. Nous avons publié le calendrier et nous avons tenu bon en organisant l'élection des gouverneurs. Aujourd'hui, on n'en parle plus et je pense que le pays est plus ou moins stabilisé. Deuxième axe, nous avons évalué le calendrier de 2011, de 2015, qui était le calendrier global. Et de ce calendrier, nous avons élaboré un certain nombre, une feuille de route. Et la feuille de route nous a amené à prendre des actions concrètes. Première action, nous avons fait la demande d'un appui logistique de la MONUSCO dès décembre 2015. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'avancer parce que, pas plus qu'il y a trois jours, le représentant spécial adjoint de la MONUSCO, le secrétaire général au Congo, nous a plus ou moins rassuré que le problème logistique n'était plus un problème et que la MONUSCO prenait ça, c'est une question résolue. Bien entendu, nous avions validé avec le gouvernement un plan de décaissement qui est qui constituait l'obstacle premier à tout, même à la tenue des élections. Ce plan de décaissement est en train de s'exécuter et fort de ce plan de décaissement, nous avons publié l'appel d'offres pour réquitter les fournisseurs. Aujourd'hui, on connaît les fournisseurs. Ce qui veut dire, ce qui nous amène à dire que fin juillet, nous lançons l'enrôlement des électeurs en commençant par la province pilote de Normandie.
Voilà, donc je trouve paradoxal votre allégation annonçant le démarrage des opérations de l'enrôlement au mois de juillet, comme vous venez de le confirmer tout à l'heure, parce que en même temps, vous estimez que le processus électoral dépend du processus politique. Donc c'est des démarches diamétralement opposées.
Je n'ai jamais dit que le processus électoral dépend du dialogue politique.
Le processus politique.
Du processus politique. Où est-ce qu'il est dit ça? Je n'ai jamais dit ça. Il est dit qu'il y a des questions techniques qui dépendent de la CENI et la CENI est en train de les exécuter. Entre autres, l'enrôlement tel que nous sommes en train de le faire, nous n'avons pas besoin d'un consensus. Dans tous les cas, s'il y a au moins un point sur lequel un consensus avait déjà été dégagé, c'est que tout le monde, tous les acteurs étaient d'accord que les fichiers n'étaient pas fiables.
Voilà.
On va les résoudre cette question.
Voilà. On va accorder quand même le temps aux auditeurs de pouvoir analyser également vos propos. 081 890 6315 pour votre intervention en direct.
Chaque jour, la fréquence de la PMU le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces à 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour des provinces, vivez les informations avec le reporter de Radio Capi.
Parole aux auditeurs.
Donc encore merci de votre fidélité à Radio Okapi. La rédaction de la Radio Okapi vous informe que exceptionnellement, pour l'intérêt, par rapport à l'intérêt du sujet et vu les temps que nous devons accorder à notre invité, les informations passeront donc légèrement en retard, donc pratiquement vers midi et quart. Professeur Robert, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, monsieur Julien.
Bienvenue dans Parole aux auditeurs. Quel est votre avis?
Bon, je salue le monsieur Colonel Nanga, notre invité. Je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire dans la mesure où il a l'appui de MONUSCO. Mais je crains fort que les contraintes budgétaires puissent encore l'éloigner de ce schéma-là. S'il y a des contraintes budgétaires, le peuple congolais est prêt, même les différentes provinces peuvent s'organiser pour trouver un financement immédiat, parce que le souci c'est de faire de notre pays une démocratie exemplaire en Afrique. Nous sommes au centre de l'Afrique. Nous, si nous sommes dans une bonne démocratie comme au Nigeria, comme au Sénégal, je crois que nous allons mener l'Afrique vers le véritable développement. Donc, je suis de ceux qui croient que M. le colonel M. Nanga peut organiser les élections dans les délais, parce que en 2011, moi, je fais mon enrôlement au mois de juin, juillet. Alors, nous avons fait les élections en novembre. Donc, qu'est-ce qui empêcherait que toutes les provinces qui sont déjà là soient alertées en un jour et qu'on puisse mobiliser et enregistrer, enrôler tous les jeunes en 2-3 jours et l'opération est terminée? Moi, je pense que ce n'est pas une mer à boire. Comme il s'est dit, il n'est pas redevable du dialogue national, il n'a rien à voir avec ça. Moi, je pense que l'indépendance de la CENI peut mieux s'exprimer dans ce sens.
Merci beaucoup, professeur Robert, d'avoir appelé de l'UNIKIN ici à Kinshasa. Maître Fauville, vous êtes à l'Ouest. Bonjour et bienvenue. La parole aux auditeurs.
Bonjour, monsieur Gilles. Bonjour à tous les membres d'auditeurs. Bonjour aussi à notre invité.
Alors, vous avez suivi vos prédécesseurs. Oui, vous avez suivi vos prédécesseurs depuis le début de cette émission. Est-ce que tout le monde est d'avis que c'est possible d'organiser les élections dans les délais constitutionnels? Et de l'autre côté, le président de la CENI évoque ce que nous appelons, en fait, la confiance que les uns et les autres doivent avoir du fichier électoral. Certains politiques qualifient de ce fichier électoral de pollué, de corrompu. Alors, aujourd'hui, il faudrait quand même que les politiques puissent se mettre d'accord sur le fichier. Et c'est pourquoi la CENI propose cette révision.
Oui, M. Gilles, j'ai bien suivi avec la passion soutenue et mes prédécesseurs par rapport à leur vœu, par rapport même à leur confirmation. Moi, j'estime que j'ai pris une idée de ceux-là qui disent que c'est possible de gagner des élections dans les délais constitutionnels. Quant à M. Corneille Nanga, nous ne pouvons pas minorer M. Gilles. Il est en train de faire le jeu du pouvoir. Et la CENI est devenue une tête à résonance du pouvoir, un bras séculier du pouvoir. C'est-à-dire que tout ce que M. Corneille-Langa est en train de dire dans votre studio, ce sont des manœuvres dilatoires. Tout ce que la mission qui lui a été confiée, vous savez de quelle manière d'abord il a accédé à ce poste-là du président de la CENI.
Oui, maître Sonville. Oui, maître Sonville. Je vous pose juste une question. Est-ce que vous êtes d'avis avec les autres qu'aujourd'hui il y a beaucoup de défis? Est-ce que vous pouvez nous relever quelques défis que vous connaissez dans le processus électoral?
Ce défi-là, monsieur Gilles, je comprends très bien qu'il y a certains défis. Mais ce défi-là a été réalisé il y a quand même une minute par l'opposition, par la société civile. Ça n'a pas été pris en compte par la CENI.
Maintenant que la CENI prend en compte ces défis, est-ce que vous souhaitez donner le temps à la CENI de pouvoir travailler sur ces défis ou d'aller directement aux élections avec toutes ces contraintes?
Moi, je trouve que le plus grand défi que la CENI doit relever, c'est le défi là du fichier électoral, comme vient de le signer M. Corneille Nanga. Mais, moi, je demanderais seulement aux nouveaux majeurs et aux autres là qui n'ont pas été enrôlés en 2011 d'accepter cela avec le fichier électoral de 2011 pour mettre un terme à toute cette
transaction. Merci beaucoup, maître Sonville. Maurice, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour Jérôme Liembo, je salue aussi les auditeurs qui nous suivent à l'instant. J'aimerais dire ceci, il est possible d'organiser l'élection présidentielle couplée aux législatives nationales dans les délais, mais il faudra maintenant se poser la question, quel genre d'élection voudrons-nous d'abord? Est-ce que c'est une élection crédible, apaisée, transparente? Ça c'est une autre paire de manches en fait, de la problématique en fait, des élections. Alors, par cette question, j'aimerais d'abord dire ceci, que le Sénat a peut-être serait même un bouc émissaire, parce que les Congolais n'ont pas en fait cette culture de bien suivre en fait les moindres détails ou même les comportements de nos acteurs politiques. Donc je disais que le Sénat serait un bouc émissaire, pourquoi? Parce que c'est une situation qui a été préméditée. C'est pas une situation fortuite. Comme les gens peuvent en fait le penser aujourd'hui, que le problème lié à tous les défis en fait qui sont relevés par M. Nanga, ça ce sont des
questions
qui ont été montées de toutes
pièces
à dessein pour nous amener à cette situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Alors, peut-être que je pourrais prodiguer, je prodiguerais un conseil patriotique à notre compatriote Nanga qui est avec vous.
Oui.
De savoir expliquer les choses avant.
Voilà,
donc je lui demanderai de démissionner comme je demande aussi à ceux qui sont à la
fonctionnaire
de laisser cette situation aux politiques.
Oui,
c'est-à-dire, nous allons au dialogue juste pour constater leur mauvaise foi et leur demander de démissionner avant que le peuple prenne le contrôle des choses le 20 décembre.
Maurice, je crois que à un certain niveau de débat, comme nous l'avons toujours dit, peu de respect à l'égard de nos invités et aussi à l'égard de d'autres auditeurs, parce que là, il faut quand même utiliser le langage un peu pédagogique. Quand vous parlez des boucs émissaires, bon, c'est vrai, nous vous les concédons, mais après, ne pas organiser les opérations maintenant, parce que le temps nous fait défaut, il faut aller vite, parce qu'il y a un délai constitutionnel qu'il faut respecter.
pour que de l'autre côté et de l'autre part, que les gens se mettent d'accord sur certains compromis politiques, pour que les choses se fassent sans l'approche ou encore sans embâche. Donc je crois qu'à ce niveau, il faut quand même que tout soit en règle. Alors, donc je crois que nous devons accorder la... Parce qu'il s'agit là des préoccupations quand même directes. Alors, Monsieur le Président, que répondez-vous aux uns aux autres?
Je remercie beaucoup les compatriotes qui posent des questions très pertinentes, et ceci démontre de l'importance qu'on attache au processus électoral et de la démocratie. J'ai noté le professeur Robert et le maître Sandil et maître Maury. En tout cas, me remercie pour vos questions. La question, je vais commencer pour réagir, je commencerai par la dernière. Quel genre d'élection on veut? Je pense que maître Maurice a posé une question fondamentale. Quel genre d'élection on veut? On veut des élections qui nous amènent dans les problèmes. On veut des élections où on aura deux personnes qui se réclament,
qui vont contester,
qui se proclament l'un là-bas, c'est moi, et l'autre là-bas. Quel genre d'élection on veut? Je suis dans cette démarche-là en tant que président de la CENI. Nous sommes dans cette démarche-là en tant que plénière de la CENI, où nous avons dit, nous avons évalué. Nous avons évalué objectivement les défis et les contraintes qui sont devant nous pour arriver aux bonnes élections. Et nous avons tracé une route, une feuille de route. Mais cette feuille de route indique, bien entendu, que ça rencontre deux types de contraintes. Il y a la contrainte constitutionnelle et légale qui est devant nous, mais il y a aussi la contrainte technique et opérationnelle qui est là. Il faut concilier les deux. Il faut concilier les deux contraintes, et c'est ça la question qu'il faut se poser. Ce n'est pas une première expérience.
Mm-hmm.
En 2006, je vais dire à maître Maurice si se souvient, la Constitution indiquait qu'en cas de deux tours, la CENI devait organiser l'élection en 15 jours. Nous avons eu le deuxième tour. Entre le président Kabila et le sénateur Jean-Pierre Bemba. Nous avons organisé le deuxième tour pas après deux semaines, pas après 15 jours. On les a organisés 3 mois après. C'est même 3 ou 4 mois après. C'était une question réelle qui s'était posée, et je pense qu'aujourd'hui, les Congolais vont trouver une solution qui nous amène à ce qu'on résolve ce problème qui est devant nous. Et la CENI participe justement à ces débats en donnant des options, qui peuvent être levées et acceptées par les uns et les autres. Pourvu qu'on arrive aux bonnes élections, quel genre d'élection on veut faire les bonnes élections? Et les bonnes élections sont celles qui sont tablées sur un bon fichier. C'est la priorité pour la CENI, et la CENI travaille d'arrache-pied. Alors, est-ce que je fais le jeu du pouvoir? Non, je suis accusé de partout. Maître Sandil, vous n'êtes pas le premier. Quand je prends un petit déjeuner avec un opposant, les gens de la majorité me disent, non, tu es trop proche des opposants, tu parles beaucoup avec eux. Et quand je fais quelque chose d'autre et que je rencontre cette fois-là quelqu'un du pouvoir ou de la majorité, c'est la même accusation qui vient. Ça, ce n'est pas un problème. L'essentiel, c'est qu'il connaît. Mais Pessonville indique très bien, il a bien ce conseil, je prends ça comme constructif. Il a dit le grand défi aujourd'hui, c'est la révision de ses fichiers électoraux. Et il a bien circonscrit le problème. Il faut qu'on cherche à résoudre ce problème. Nous avons dit à TACE, en tant que pouvoir organisateur de cette question, nous avons dit qu'il nous faut un délai plus ou moins de quelques mois. Il se fait qu'il y a d'autres qui ne
font pas. Vous avez parlé de 15 mois?
Nous avions parlé en 16 mois qui courent déjà.
Alors maintenant, vu l'évolution du temps, ça peut nous prendre
combien de temps? Non, ce n'est pas un problème d'évolution du temps. Je peux vous dire aujourd'hui que je peux le faire en 3 jours. Et après 3 jours, vous allez demander qui? Non, c'est une question de responsabilité. Et la CENI, en toute responsabilité, avec l'appui international qui est là, nous avons projeté ces délais et nous sommes en train de les exécuter conformément.
Il y a un auditeur qui veut bien savoir.
Le penseur Robert, laisse-moi terminer avec le penseur Robert. Oui, le penseur Robert a indiqué clairement encore une chose et je salue sa contribution. Lorsqu'il dit qu'il peut y avoir encore des problèmes en termes de contraintes budgétaires, ça c'est un vrai problème et ça me permet de résoudre une question qui était posée avant. À quand les calendriers? Pourquoi on ne publie pas les calendriers?
Je voudrais qu'on arrive là.
Parce que je pense que la question du professeur Robert nous amène justement. Le prof pense qu'on peut faire l'enrôlement en 3 jours. Oui, ça c'est son vœu, professeur. C'est un souhait que je termine. Moi-même, je voudrais que je termine cet enrôlement en 2 jours, en 1 heure ou autre chose. Mais la réalité c'est quoi? C'est que dès lors que nous passons la commande dans la semaine prochaine, dès que la commande est passée, il faut attendre que celui qui fabrique le matériel le fabrique. Et au fur et à mesure qu'elle va produire, les producteurs vont produire le matériel, ils seront déployés et nous allons continuer avec l'opération d'enrôlement. C'est une opération délicate. Très délicat. Alors, le calendrier où nous en sommes, nous avions dit, il y a 3 calendriers en souffrance aujourd'hui. Vous savez qu'un calendrier procède d'une décision de la CENI. Donc, la CENI décide qu'à telle date, elle fera ceci, elle fera cela, elle fera ceci. Et que nous avons 3 calendriers en souffrance, c'est-à-dire qui sont des décisions de la CENI, mais non exécutées. Non exécutées, la question c'est de dire, qui est responsable? Ce n'est pas le problème de la CENI. Nous établissons ici les faits. Il nous faut publier un nouveau calendrier. Vous allez le qualifier de je ne sais pas moi quoi. Parce que les premiers étaient partiels, on réclamait un calendrier global. On a publié un calendrier global, on a dit qu'il était trop global, il faut plutôt un calendrier consensuel et réaliste. Ça, ce n'est pas la CENI. Nous voulons ce calendrier. Quels sont les facteurs qui sont devant nous et qui faisaient qu'on ne publie pas encore les calendriers? La publication du calendrier est tributaire des 3 facteurs. Le premier, et ce n'était pas le moindre, malheureusement, il y a des avancées, je vous ai dit qu'on vient d'élever ces facteurs. Le premier, c'était que je ne peux pas publier un calendrier tant que je n'ai pas des indications claires sur l'appui logistique. Je ne sais pas combien d'avions j'ai. Je ne sais pas combien de véhicules j'ai. Je ne peux pas dire que tu feras 2 jours, 3 jours, 1 mois et autre. Il faut avoir des indications. Nous venons d'avoir des indications parce que le représentant spécial nous a confirmé que ça, ce n'était plus un problème. La MONUSCO accepte donc la liste. C'est une avancée. Le deuxième facteur, on ne peut pas publier un calendrier tant que nous n'avons pas des indications claires sur le budget. Nous avons un plan de décaissement avec le gouvernement que nous avons validé, mais il faut dire qu'il est encore insuffisant. Tout de même, il faut dire que fort de ce plan de décaissement, c'est ce qui nous a permis d'arriver plus ou moins là où nous en sommes aujourd'hui, et on a beaucoup avancé. Le troisième facteur, et je pense qu'il n'est pas le moindre, je ne dis pas que je dépense à dépend du dialogue, nous avions dit, appelez ça dialogue, appelez ça quoi, ça ce n'est pas nous. Ce n'est pas du tout parce que c'est les résolutions qui en sortiront qui nous intéressent. Ce qui nous intéresse, c'est que nous avons quand même besoin de certaines indications claires en termes d'options politiques. Vous avez aujourd'hui, et pour les calendriers, il faut le dire, il y a des gens, il y a des Congolais qui pensent que non, absolument, il faut commencer avec l'élection du président de la République parce qu'il est constitutionnel. Et ils ont les raisons. Mais vous avez aussi aujourd'hui une partie des Congolais qui pourraient, et pas les moindres, ils disent, non, on doit commencer par les élections locales. Quand je vais au Parlement, il y a même des députés, des élus qui me disent, Monsieur Nanga, nous ne partirons pas ici en laissant encore le Sénat qui est là depuis 10 ans. Ce sont des questions réelles.
Voilà, comme vous le Président.
Donc, il y a 2 derniers auditeurs et puis on revient à vous.
Bien entendu. Donc, laisse-moi juste dire que ce sont ces éléments-là qui font que, avant de publier un nouveau calendrier,
et nous allons le faire dans les jours qui viennent, même si les gens pensent, même s'il n'y a pas de dialogue, nous avons des
questions,
nous allons le publier. En publiant ce calendrier, on devait néanmoins tenir compte des uns
des autres. On va prendre Emile Arbouzouma et mettre le guillet à Kinshasa. Vous avez chacun 30 secondes, comme ça on revient à l'autorité pour conclure. Emile, vous êtes Arbouzouma, bonjour.
Bonjour, monsieur Gérard.
Oui, quel est votre avis?
Oui. Oui, moi, j'ai bloqué de monsieur Lang quand il avait pris ses fonctions, il ne savait pas qu'il serait peut-être dicté ou peut-être il rencontrerait de contraintes budgétaires. Parce que c'est le gouvernement qui devrait débourser comme on a préparé, n'est-ce pas, les élections depuis d'abord les dernières élections. On devrait toujours chaque année.
Il ne reste que deux minutes, donc si vous pouvez être un peu précis, ouais. Rapidement.
Alors, comme les élections présidentielles, le calendrier est prédéfini dans la Constitution. On devrait commencer par les élections présidentielles pour ne pas créer l'espace de l'État.
Merci beaucoup, Emile. Maître Guy, vous êtes à Kinshasa. Quel est votre
oui, merci beaucoup. Je vous remercie, Radio Capi, pour ce débat citoyen. Mon problème, c'est que je me pose la question de savoir si M. Nanga est un homme libre.
Merci beaucoup. L'indépendance de la CENI, c'est la question qui revient. Monsieur Nanga, nous allons terminer avec vous. Quel est votre point de vue par rapport à toutes ces inquiétudes?
Merci beaucoup, Emile, merci, M. Guy, pour ces questions pertinentes. Votre participation à ces débats citoyens. Pitié de M. Nanga, je ne pense pas. Vous avez pitié de M. Nanga, pourquoi? Je pense que je fais mon travail. Et c'est une question de responsabilité. J'essaie de jouer ma partition dans ce rôle républicain qui m'est donné d'amener le peuple congolais aux élections. Et j'espère que je compte beaucoup sur vous, pour les uns et les autres, pour que nous arrivions à cette fin. Monsieur Emile, je note aussi que sa proposition serait qu'on commence avec les présidentielles.
Nous prenons
acte, nous l'avons dit vous-même, nous prenons acte des propositions des uns et des autres, et c'est ce que nous avons dit, que non, il y a les uns qui pensent ceci, il y a d'autres qui pensent aussi la démocratie. Maître Guy, merci beaucoup. Est-ce que M. Nanga est un homme libre? Bon, je ne sais pas de quelle liberté vous parlez, je ne suis pas en prison. Je suis venu moi-même ici, d'ailleurs moi-même au volant, ici à Radio, à ces débats citoyens. Est-ce que je sais que non, les pressions, il faut les reconnaître, les pressions viennent de toutes parts. J'ai les pressions des acteurs politiques, j'ai la pression de la communauté internationale, j'ai la pression de tous les Congolais, et c'est avec raison, parce que ce que nous faisons, ça intéresse plus de...
Merci beaucoup, Corneille Nanga Yobelo, au président de la CENI. Merci également à Didier Nyangasa qui a assuré la mise en ordre de ce programme réalisé par Pierre et la Belgique. Julie Pézabongonda était au standard. Gilles Mungembo a eu le plaisir d'être présenté et coordonné cette émission sous la supervision de Martin Sebou Jambé, entretien demain dans un autre numéro.